toucher notre vie à nouveau. Et c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur. Viens toucher notre vie à nouveau, encore une fois de plus. Et c'est vraiment ça qui vibre dans nos cœurs ce matin. Merci au Seigneur pour sa présence dans ce moment intime, doux de l'intimité de sa présence, ce temps d'adoration. Waouh! C'est ce qu'on aime, c'est être là juste pour lui, être là pour le Seigneur. Et ça fait tellement plaisir de vous revoir en ce début d'année. On a cheminé l'année passée pendant des mois pour la gestation de cette église. Et ça fait pas tout à fait 4 mois qu'on a commencé nos cultes. Ça me paraît déjà tellement lointain. Puis d'un autre côté, c'est tout frais. Ça fait même pas 4 mois qu'on a commencé les cultes. Mais il y a déjà des attaches qui commencent au niveau relationnel. Et j'avais déjà l'ennui après ces fêtes. Enfin, j'ai déjà beaucoup de joie à vous revoir, à être avec vous ce matin. Et je me réjouis vraiment aussi de la suite, de ce que Dieu prévoit pour tout est devant encore. On est qu'au tout petit début de ce que Dieu va faire. Et ce matin, on va partager notre cœur ensemble avec Diane, avec une pensée qu'on sentait pour cette année. Et je suis vraiment heureux qu'on se partage le micro. On espère que vous avez aussi pu passer de belles fêtes, pu profiter, avoir eu des temps en famille, des temps de repos, des temps conviviaux. Vous avez pu relationner, mais peut-être aussi briller, amener peut-être une espérance là où vous avez été. Et puis, à ce propos, je garde un souvenir vraiment lumineux. C'est le cas de le dire, notre Noël au coin du feu qu'on a eu le 18 décembre à Cressier. On a eu une marche au flambeau, puis ensuite on a eu un moment de chant, de prière autour du feu. On a vécu des moments relationnels, conviviaux, du vin chaud, de la soupe au pois, des desserts, et j'en passe. Et en priant, ces derniers temps, je réalisais qu'en plus d'être un de ces moments relationnels qu'on chérit tellement à l'Église Passion, il y avait toute une portée spirituelle, comme une portée prophétique, quelque part, de ce qu'on a vécu à ce jour-là. Déjà, on était 118 inscrits. Alors, il y en a qui ne sont pas venus, il y en a des qui sont venus qui n'étaient peut-être pas inscrits. De toute façon, ce n'est pas le nombre qui compte, hein, que ce soit ce jour-là ou à d'autres moments. Mais ce chiffre 118 pouvait être utile, parce que quand vous faites un Noël au coin du feu, si ça prenait feu, vous savez directement le numéro qu'il faut appeler. Mais c'était surtout que, en priant ce début d'année, j'ai vraiment cette pensée, quelque part, que c'était un peu un signe qu'on avait vécu ce jour-là, de ce que Dieu voulait faire. On était environ, à quelques personnes près, 120 comme à la Pentecôte, où il y a 120 personnes qui s'étaient réunies dans une pièce en haut et qui ont commencé à prier dans l'attente que quelque chose se passe, l'attente du Saint-Esprit, comme Jésus leur avait dit. Et ce Saint-Esprit qui est descendu comme des flammes de feu sur chacun d'eux. Et j'ai cette pensée du Seigneur, alors qu'on est monté avec nos torches allumées depuis le bas de Cressier jusqu'en haut, le long du chemin, alors que le jour tombait, on a vu le coucher de soleil, que la nuit commençait à devenir de plus en plus sombre, j'ai vraiment cette pensée que ce feu sur chacun, c'est un signe de ce que le Seigneur désirait faire par son esprit sur nous. Allumer un feu et que chacun puisse être un porteur de ce feu, alors qu'on avait tous plus ou moins un feu avec cette torche. Il n'y a pas juste un feu, on avait chacun le feu. Et ensuite, ces moments réunis autour du feu, on a adoré Dieu, on a élevé, où la louange s'est élevée, un peu comme ces flammes d'un feu. On était dans la neige, dans une clairière, et il y avait cette lueur qui venait, cette mythique, ça illuminait ce coin de forêt. Et je sentais vraiment cette parole du Seigneur, j'ai noté en ce début d'année que je vous retransmets simplement, après je poursuivrai le message. Mais vraiment cette pensée du Saint-Esprit qui disait « Mais je désire tellement plus pour vous cette année. Je désire enflammer vos vies. Je désire amener une espérance dans cette pénombre ambiante. Une lueur, une lumière, un espoir. Et comme à la Pentecôte, je cherche des hommes et des femmes qui s'attendent à moi, qui me cherchent, qui me reçoivent, qui saisissent ce feu que je désire déposer sur chacun pour briller là où vous êtes au quotidien. Mais aussi ce feu collectif quand l'Église se réunit. Je désire intensifier la vie de mon esprit, intensifier la chaleur, la lumière qui chasse les ténèbres, la lumière qui libère la révélation, parce que j'ai des projets de bonheur et non de malheur pour l'humanité, pour cette région. Alors ayez cette attente, comme les 120 dans la chambre haute, parce que je désire déverser mon esprit sur toute chair dans une autre dimension. Impactez vos vies, impactez cette région, comme je l'ai fait à la suite de cette Pentecôte. Et rappelez-vous de ce Noël au coin du feu, comme d'un signe de ce que je veux faire dans l'esprit. Alléluia. Et moi, je sens le Saint-Esprit bouillonnait en moi quand je pense à ce que Dieu veut faire dans cette année et dans la suite. Et je crois que cette pensée, elle lance un peu ce qu'on avait à cœur partager ce matin. Comme c'est 120 d'avoir ce désir, d'avoir une attente, cette attente. Parce qu'ils étaient là et ils attendaient que quelque chose se passe. Et dans cette attente, Dieu est venu se manifester de façon puissante. C'était tellement puissant qu'on parle encore aujourd'hui de la Pentecôte, puis qu'on a encore tous aujourd'hui un jour férié dans notre calendrier. Mais ça a été le début de l'Église, puis les gens se sont tournés ensuite en masse vers le Seigneur. Ça a été un tournant. Et c'est là qu'est née cette première Église. Et ce que j'aimerais dire pour commencer, c'est que Dieu, il répond aux attentes. Dieu répond aux attentes. C'est un principe que j'aimerais souligner ce matin. C'est qu'il répond quand il y a un désir, quand il y a une attente de quelque chose. Et à la Pentecôte, en fait, Jésus aurait pu, déjà quand il était sur terre, mais ensuite le Saint-Esprit aurait juste pu se répandre sur les douze, puis s'aurait fait boule de neige, avec le feu c'est pratique, enfin ça serait répandu simplement plus loin. Mais non, Dieu voulait qu'ils se rassemblent, qu'ils cherchent, qu'ils s'attendent à Dieu, qu'ils se désirent que le Saint-Esprit vienne. Et de cette attente est né ce réveil. Et ma question ce matin que j'aimerais lancer, c'est quelle est mon attente? Quelle est ton attente? Quelle est ton attente pour 2022 ou pour ta vie ou plus large? Quelle est ton attente pour ta vie avec Dieu? En tant qu'Église Passion, quelle est notre attente? Quel est notre désir? Qu'est-ce qui brûle dans notre cœur? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre? Et rien que de poser la question, ça bouillonne, j'ai tellement faim et soif de plus de Dieu. Et je crois que Dieu n'agit pas juste quand on vit au jour le jour, en regardant ce qui se passe, mais il agit avec ce principe de répondre aux prières et de répondre aux désirs de nos cœurs. Alors la question c'est qu'est-ce que tu as envie de vivre? Qu'est-ce qui vibre dans ton cœur? Quelle est ta soif? Quelle est ta soif pour 2022? Il y a quelques années, Rivella a fait la pub avec le slogan « Quelle est la couleur de ta soif ?» Alors il y a le Rivella rouge, le vrai, entier, le bon, les skieurs le boivent, c'est pour ça que la Suisse est si fort en ski. Après il y a le Rivella bleu, ça ressemble, c'est pas tout à fait ça, c'est un peu du light. C'est un demi-Rivella. Il n'y a pas toute la substance, il n'y a pas tout le contenu du vrai. Puis après, je ne sais pas ce qui leur est arrivé, ils ont sorti le Rivella vert. À part le nom, il n'y a plus vraiment du Rivella. Et puis, je suis convaincu qu'au ciel, il n'y en aura pas de celui-là. Enfin, je veux bénir celui qui a inventé ce goût. Et puis après, je ne vais pas faire toutes les couleurs, hein, parce qu'il y a le jaune-orange, il y a le rouge rhubarbe, etc. Parce que Rivella ne m'a pas payé pour faire un placement de produit ce matin. Et pour poser la question, quelque part, quelle est la couleur de ta soif? C'est un slogan marketing. Mais pour moi, c'est parlant comme une parabole. Quelle est la couleur de ma soif? Et je crois qu'il y a plusieurs sortes de soif qu'on peut avoir. On peut vouloir vivre du vrai, avoir soif de boire toute la substance, tout son contenu. La soif de réel, la soif de connaître Dieu, la soif de voir Dieu à l'œuvre comme on le voit dans la Bible. Ou alors une soif, un peu une boisson light, qui va peut-être nous satisfaire. Une foi qui a la même couleur, ça a la même couleur, presque le même goût, mais il n'y a pas toute la substance, il n'y a pas tout le contenu. La foi n'a pas la même puissance. On boit quand même, puis ben les autres, à part s'ils regardent l'étiquette, ils ne vont même pas voir que le Rivella, ce n'est pas le même. Ça a la même apparence, mais c'est pas forcément, il n'y a pas la même puissance, la même substance. Pas vraiment le même goût non plus. Et je sentais que Dieu me disait, mais tu sais, il y a plus. Il y a plus, il y a du vrai, il y a une vie avec toute la substance, tout le contenu. Pas juste la couleur, le goût, l'apparence. C'est qu'une partie. Et si vous buvez du Rivella, ben vous saurez bien ce qui est. Si vous buvez du Red Bull, vous aurez des ailes. Non, c'est pas de ça que je parle ce matin, mais vraiment de notre soif, la couleur de notre soif. Je crois qu'à un moment donné, suivant ce qu'on boit et quelle est notre soif, ça va changer quelque chose en nous. Ça va changer dans notre vie. Et les sportifs, par exemple, ils boivent des boissons protéinées après l'exercice pour nourrir les muscles. Alors ça les abreuve, mais ça va aussi nourrir le muscle qui a été meurtri pour qu'il reprenne du volume, qu'il reprenne des forces. Et c'est différent de l'eau et ça construit. Et dans ce sens, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il parle aussi d'une boisson, il parle de petit lait. Comme le Rivella, c'est aussi à base de lactose. Mais c'est lui qui a inventé le Rivella peut-être. Il parle de petit lait au début de la vie avec Dieu et à un moment donné, il dit si on veut prendre de la masse, c'est-à-dire si on veut grandir, si on veut progresser avec Dieu spirituellement, mais il va falloir passer à de la nourriture solide. Et c'est Hébreux 5, verset 13, qui nous dit « Celui qui en est au lait est inexpérimenté. » Dans ce qui est juste, il est comme un enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux qui, en raison de leur expérience, ont les sens exercés à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Et quand on prend juste du petit lait, ben du coup on aura peut-être de la peine à saisir ce qui est bien, ce qui est excellent, ce qui est moins bien, puis ce qui est peut-être carrément mauvais. Alors ça va nous abreuver sur le moment, mais ça ne va peut-être pas amener à voir les choses différemment. Ou bien la nourriture solide, comme une nourriture ou une boisson, une protéine, je ne sais pas, c'est quelque chose qui abreuve, mais qui va aussi nourrir, nous construire intérieurement, nous faire grandir, nous transformer, qui nous donne de voir, de saisir ce qui est bien, ce qui est moins bien, ce qui est excellent. Et je trouve qu'on en a tellement besoin de nos jours, dans la vie de tous les jours, il y a tellement de débats de société, d'éthique, de recherche de la volonté de Dieu pour notre vie, pour la suite, etc. C'est tellement important de savoir discerner la volonté de Dieu, la voix de Dieu. Et on a cette réponse quand on passe à la nourriture solide. Dieu commence à nous montrer quelle est ma soif. Et ce premier passage nous montre qu'en fonction de notre soif, en fonction de ce qu'on boit, de ce qu'on mange, on va voir autrement, puis on va grandir en maturité. Et c'est vrai déjà humainement. En fonction de ce qu'on se nourrit, de médias, de séries, on va voir autrement. Et c'est vrai spirituellement, en fonction de ce qu'on se nourrit, on va grandir et on va avoir un discernement affûté. Il y a tellement plus. En tout cas, moi, j'ai tellement envie de grandir en maturité. J'ai vraiment envie de saisir le plan de Dieu pour ma vie, pour l'Église, pour cette région, pour ma famille. Et je crois que la clé, c'est ma façon de me nourrir de Dieu. En lisant la Bible, en prenant du temps dans sa présence, en louant Dieu, en priant. Et là, ça va gentiment bâtir mon être intérieur parce que je vais boire du vrai avec de la substance de vie et ça va me faire grandir. Et dès le début, dans l'ancienne alliance, Dieu déjà, on voit qu'il répondait à une attente. Il n'agissait pas simplement comme ça, même s'il le peut. Et je l'avais déjà partagé une fois dans nos mardis soirs de prière. Dieu avait invité tout le peuple à le rencontrer sur la montagne. Il aurait voulu rencontrer chacun. Mais les gens, ils ont eu un peu peur de rencontrer Dieu. Ils ont dit à Moïse, vas-y plutôt toi, va écouter Dieu, puis tu nous diras ce qu'il pense. Et résultat des courses, le peuple n'a pas rencontré Dieu, mais Moïse si. Et d'ailleurs, à force de ne pas avoir rencontré Dieu, leur image était tellement quelque part tronquée, ils n'avaient pas vraiment cette révélation de comment était Dieu, que dans leur impatience de matérialiser Dieu avec Aaron, ben ils ont fait un veau d'or. C'était un Dieu comme la culture d'époque, etc. C'est pas qu'ils voulaient forcément faire exprès l'inverse, mais ils n'avaient pas vu vraiment comment était Dieu. Ça peut d'ailleurs très bien se passer aujourd'hui où on imagine louer un Dieu selon la culture d'aujourd'hui. Et quand on rencontre véritablement Dieu, on apprend à le connaître tel qu'il est vraiment. Et Moïse avait cette faim et cette soif de rencontrer Dieu. Dans Exode 33, verset 18, il dit « Mais fais-moi voir ta gloire ». Il avait cette attente, ce désir en lui « Fais-moi voir ta gloire ». C'était un cri de son cœur. Et Dieu voulait se révéler à tous, mais seul Moïse avait vraiment ce désir et il l'a vu. Il l'a vu, Dieu s'est révélé, ça a changé sa vie. On le voit aussi avec David, par exemple, j'aime bien citer son attitude, où il dit dans le psaume 42, verset 3, « Mais mon âme a soif de Dieu, soif du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ? Il a tellement soif de Dieu, il attend que d'être devant lui. » Ou bien au psaume 63, verset 2, il dit, « Mais ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps. » C'est le même mot que mon être, ma chair, mon être intérieur soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. C'est pourquoi je t'ai contemplé dans le sanctuaire pour voir ta force et ta gloire, car ta bonté vaut mieux que la vie et mes lèvres célèbrent tes louanges. Mon corps soupire après toi, mon être, ma chair soupire. Et c'est marrant parce que le mot qui a été traduit par soupirer de l'hébreu kama, ça veut dire aussi défaillir avec un désir ardent. Languir. Et c'est super fort. Son être intérieur, il défaille tellement il a soif de Dieu. C'est pas étonnant, après que David y voit Dieu agir puissamment, s'il a une telle soif de voir Dieu agir. Et moi, ça me titille d'avoir une vraie soif, d'avoir plus de soif de Dieu, et pas juste d'être satisfait. Et c'est un principe de comment Dieu fonctionne. Il répond aux prières, il donne à boire à celui qui a soif. C'est Jésus lui-même qui le dira dans Jean 7, 37, où il est dit le dernier jour, le jour de la grande fête, Jésus debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Si quelqu'un a soif, waouh. Et c'est tellement intéressant aussi de voir ce mot soif, qui est traduit en français par soif, en grec, dipsao, ça signifie bien soif, mais littéralement, qui souffre de soif. Si quelqu'un souffre de soif, qu'il vienne à moi. Et d'ailleurs, le dictionnaire Stroll du grec dit qu'au sens figuré, c'est qu'ils ressentent douloureusement leur manque et aspirent avec impatience à ces choses par lesquelles l'âme est rafraîchie, soutenue, renforcée. C'est fort. C'est une soif qui est forte. On ressent douloureusement le manque, tellement on a envie de plus de Dieu dans nos vies, tellement on a envie que Dieu agisse plus autour de nous. Quelle est la couleur de ta soif? Jusqu'à quel point est-ce que tu as soif de plus de Dieu? Et je crois que de ça dépendra la réponse de Dieu. Et là, Jésus, il est dit qu'il s'est levé et littéralement qu'il a crié. C'est le mot de la Bible. Il a crié si quelqu'un a soif. Et nous, on imagine Jésus avec la tête, des fois sur moins 10, qui dit si quelqu'un a soif. Donc, il s'est levé et il a crié si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un souffre intérieurement, tellement il a soif de plus, qu'il vienne à moi et qu'il boive. C'était pas du Rivella Light. Là, il proposait vraiment de l'entier. Jésus-Christ, pas juste Jésus-Christ, Jésus-Christ. Qui est-ce qui a soif? Qu'il vienne. Il dit, à ceux-là, je donnerai à boire. En fait, il donne à boire à celui qui a soif. C'est intéressant. Et moi, j'ai envie de boire cette vie pour vivre les mêmes choses que je lis dans la Bible. Moi, j'ai envie de vivre la Bible aujourd'hui. Et j'ai envie d'avoir cette soif. Et Matthieu 7, c'est Jésus qui prêche et qui dit ce passage bien connu. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et on l'ouvre à celui qui frappe. Et c'est vraiment un principe de Dieu. Et là aussi c'est fort, le terme demander, c'est, qui est mis par demander, c'est désirer, appeler, même mendier. C'est une aspiration qui est forte et c'est un principe. Et avec Diane, on sentait vraiment que c'était la pensée que Dieu voulait nous donner en ce début d'année. C'est quelle est notre attente? Quelle est notre soif? Église, quelle est ton attente pour 2022? Parce que Dieu ne répond que lorsqu'il y a une demande, lorsqu'il y a une aspiration profonde. Et je me souviens de ce chant quand j'étais gamin, qui disait « Je vais boire à l'entrée aux sources de la paix. » À l'entrée, sa grande gorgée. Vraiment, je vais boire jusqu'à plus soif, quoi. Je vais boire tout ce que je peux. J'ai soif de cette vie. Et mes amis, c'est les assoiffés. C'est vraiment les assoiffés qui reçoivent à boire. Et personnellement, je me sens vraiment interpellé par ça. Parce qu'on a tellement de choses dans la vie, avec le job, la famille, tout ce qui se passe. Mais au milieu de tout ça, quelle est véritablement ma soif de Dieu? Et je laisse la parole à Diane qui poursuit, puis je reviendrai. Je reviendrai juste tout à l'heure.
Si Jésus nous parle d'avoir soif et d'avoir une attente, c'est parce qu'il y a plus. Il y a bien plus que ce qu'on a déjà jusqu'ici expérimenté, compris, vécu avec Jésus. Dieu désire vraiment nous rassasier, nous combler de ses biens, de sa présence, de son esprit, de son amour. Est-ce que tu veux ce plus? Es-tu disponible, qui est disponible? Es-tu disponible pour recevoir ce plus? Est-ce que tu as soif de rencontrer vraiment Dieu et de te poser et demeurer dans cette présence manifeste de Dieu où les choses se passent réellement? On a parlé du miracle, de guérison, d'autres choses. C'est comme un level 2. C'est d'arriver dans cette présence où Dieu agit. Dieu donne à celui qui a soif, comme l'a dit David, qui exprime vraiment le désir de plus. Et ça, c'est une clé. Il est accessible à ceux qui le cherchent. Et dans la Bible, on le voit, il dit finalement à un endroit, on peut lire, il se laisse trouver par ceux qui ont soif. Et dans Luc 11, David vient de le lire et j'aimerais souligner que c'est écrit, tous ceux qui demandent, reçoivent. Ça, c'est une belle promesse. Demande et reçois. Cherche, tu trouves. Frappe et il va t'ouvrir. Il va ouvrir la porte. En Jésus, tu as accès à l'abondance de la vie. Il fait toutes choses nouvelles. Ses bontés se renouvellent. Ses bontés ne s'épuisent, mais vraiment jamais. On n'a jamais fini, en fait, avec Dieu, de découvrir plus, d'expérimenter plus, d'être renouvelé encore plus. Et dans ce que tu vis aujourd'hui, il y a d'autres choses à découvrir. Ne te satisfais pas de ce que là où tu en es maintenant. On n'a jamais fini, il y a encore et encore. De là où tu te trouves aujourd'hui, Dieu désire te saisir, là, t'amener dans les choses en lui, dans sa présence manifeste. Il désire te rassasier, te combler et te donner plus encore. Il y a bien plus que ce qu'on peut imaginer, qu'on peut même demander. Et j'avais parfois pendant mes temps, ces derniers mois, l'impression que Dieu me dit « J'ai envie d'ouvrir ton horizon, Diane. J'ai envie d'ouvrir ton horizon. » Et je saisissais en fait qu'à plusieurs reprises, ces dernières années, peut-être des prières non exaucées, des déceptions, des décès dans ma famille, ont finalement comme refermé l'horizon dans lequel j'étais. Et toute cette grandeur que Dieu veut me faire vivre, veut nous faire vivre, était comme plus visible à mes yeux. Et j'ai dû abandonner comme ces ornières et dire « Seigneur, je sais qu'il y a plus et je veux ce plus. » Et c'est comme si, waouh, il y a eu un déclenchement, une ouverture et Dieu désire vraiment ouvrir ton horizon. Et dans ce que tu as vécu jusqu'à maintenant, que ce soit des déceptions, que ce soit des choses négatives qui ont pu peut-être conditionner ta foi ou tu as eu des doutes, Dieu aimerait ouvrir ton horizon. Dieu nous a créés pour plus de révélations encore, pour progresser de gloire en gloire, de vivre plus de bonté, de grâce et d'entrer vraiment dans le miraculeux. Ce qu'on est en train de vivre ici à l'Église Passion ou ce que tu es en train de vivre tout personnellement, c'est des prémices, c'est le début. On a vu des guérisons, on a expérimenté de belles choses, mais il y a plus. Et Dieu nous dit dans le psaume 34:9, « Goûtez et voyez comme l'Éternel est bon. » C'est une réalité, Dieu est bon. Il aimerait que tu goûtes, pas juste que tu le saches dans ta tête, mais que tu puisses le savourer, le sentir. Et c'est pas être extrême de se dire « J'ai besoin de goûter Dieu. » Il ne faut pas avoir peur de se dire ça et de le vouloir vraiment. Comme David vient de nous partager, donc David, mon mari, hein, parce qu'il a parlé de David de la Bible, vient de nous partager, Moïse a aspiré à rencontrer Dieu. Il ne s'est pas gêné de crier à haute voix, « Seigneur, je veux voir ta gloire !» Et Dieu, il a entendu le cri, mais il a vu son cœur aussi. Et il s'est présenté à lui. Ça n'a pas été une simple expérience coup de vent où à peine la mèche de Moïse a été déplacée et après il est redescendu de la montagne, il était tout pareil. Dieu a bouleversé à ce moment-là sa vie. Il s'est révélé à lui et il a saisi qui était Dieu. Il était ce « Je suis ». Et de plus, il a aussi révélé quelle était sa destinée, quelle était la destinée de Moïse. « Je veux que tu sois ce libérateur de mon peuple qui est en esclavage. » C'était un moment qui a été incroyable pour lui. Il était différent. Et Dieu veut nous vivre, veut nous faire vivre ces moments où on ressort différemment, différent de sa présence. Et ma prière ce matin, c'est que nos âmes soient éveillées, nos âmes soient réveillées pour pouvoir exprimer notre soif. Qu'on ait ce désir de le rencontrer, mais on arrive à l'exprimer. Que ton âme s'éveille et crie ta soif. Parce qu'il y a plus, vraiment. Alors, tu peux garder ce soupir intérieur et ne pas pouvoir l'exprimer. Dieu, il t'entend quand même. Mais exprime-le. Comme Moïse a pu hurler, crier, dévoiler ses tripes et dire « J'ai soif de toi ». Il a montré son âme « J'ai soif de toi ». Et en préparant ce message, Dieu m'a aussi parlé au travers de la parabole des deux fils dans Luc 15. Alors je ne vais pas la lire parce que c'est une longue histoire quand même, mais je crois que je vais quand même vous la rafraîchir un petit peu dans la mémoire en vous disant en gros, en grande ligne, ce qui est dit. C'est l'histoire d'un père qui a deux fils Et le jeune fils va vers son père un jour et lui dit « Papa, j'aimerais mon argent, j'aimerais mon héritage, je vais partir de la maison. » Le père lui donne cet argent, il part, il s'en va, il dépense tout, il vit dans la débauche. Il se retrouve même ruiné au point que dans cette période où il se retrouve finalement, il y a encore le comble du comble, c'est qu'il y a eu une famine. Et il se retrouve à presque mourir de faim. Et il s'est dit « Mais qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est là où il s'est mis à réfléchir. Comment puis-je m'en sortir? La pensée qu'il y a eu, c'est revenir à la maison de mon père. Et il est même dit dans le texte qu'il se dit « Mais les ouvriers de la maison de mon père, ils mangent en abondance. Même des ouvriers, des serviteurs, je vais retourner vers mon père. » Alors il a imaginé le scénario « J'arriverai, je vais m'excuser. » Et je vais même dire à mon père, reprends-moi, mais comme serviteur, pas comme fils. Parce qu'il avait vraiment ce sentiment d'être indigne après tout ce qu'il avait vécu. Il se sentait sale. Son père, lui qui le croyait mort, quand il l'a vu arriver, le retour vers la maison, il l'a accueilli à bras ouverts. Il lui a mis des habits d'honneur. Il lui a donné une bague. Il a organisé une fête, tué le veau gras. Et pendant que les retrouvailles du père et du fils, la fête qui bat son plein, le grand frère, lui, était dans les champs. Il est en train de travailler. Au loin, il entend qu'il y a une fête qui s'organise. Et il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Un des serviteurs lui dit, mais ton frère est revenu à la maison. Et là, dans la Bible, c'est écrit qu'il se met même en colère. Pour lui, c'est une aberration. C'est une aberration. Il ne comprend pas. Alors qu'il a fait souffrir son père, j'ose imaginer que son père a dû pleurer toutes les larmes de son corps, en sachant que son fils ne revenait pas. Il sait que son frère est parti dans la débauche. Il a vilipendé finalement tout l'héritage. Mais pourquoi son père organise une fête pour lui? Franchement, c'est un truc de fou. Imaginez le fils fidèle qui s'investit à la maison de son père, qui aide même aux travaux des champs. Lui, il n'a jamais pu profiter d'une fête pareille en son honneur. Et dans le verset 29, on voit sa réaction. Il dit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service, sans jamais désobéir à tes ordres, et jamais tu ne m'as donné de chevreau pour que je fasse la fête avec mes amis. » Et voilà ce que répond son père, « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien faire la fête, et nous réjouir parce que ton frère, que voici, était mort, il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Vous vous souvenez, j'ai dit même les ouvriers avaient une vie. Ils vivaient dans l'abondance, pouvaient manger abondamment. Et lui, en tant que fils, il vivait également dans cette abondance. Mais alors pourquoi il n'a pas profité de cette abondance? Pourquoi, alors qu'il était, il pouvait profiter de toutes les bénédictions de la maison de son père, s'organiser même une fête, puisque là, le père lui dit, mais tu peux t'organiser une fête. T'aurais pu disposer de tout. Il y a tout. Tout est là. Tu peux t'en servir. Mais pourquoi il n'en a pas profité? Et ça, c'était ma question. Et ce qui est venu dans mon cœur, c'est ce mot satisfaction. Le fils aîné était dans la satisfaction de sa vie de fils. Et clairement, c'était un frein. Un frein pour lui, pour ne pas finalement rechercher le plus de ce qu'il y avait. J'ose imaginer que c'est vraiment une famille très aisée qui était là, puisque les ouvriers avaient déjà de quoi bien vivre, que les enfants aussi, j'imagine, mais il y avait encore plus. Il n'arrivait même pas à imaginer plus, il n'arrivait même pas à exprimer qu'il pouvait avoir plus d'envie. La satisfaction est pour nous aussi un frein. Le contentement nous empêche personnellement d'entrer dans ce plus de Dieu. Et ce fils, c'est comme si son âme s'était endormie. Il se satisfaisait de peu, de ce qui était là, juste accessible. Il n'a pas réalisé qu'il y avait encore, encore et encore. Si vous vous souvenez, il est revenu des champs. Et je me suis dit, mais en fait, en revenant des champs, il avait peut-être dans sa pensée cette attitude de l'ouvrier. et pas une attitude de fils qui peut profiter des biens de son père. Nous, ici, on est des fils et des filles, et on peut profiter de l'abondance de la maison du Père. Et ce texte m'a touchée au point où je me suis dit, mais oui, Dieu, parfois il utilise des paraboles, parfois il utilise des versets pour nous toucher, nous parler. Et c'est comme un miroir, en fait. Dieu a envie de placer devant vous ce matin un miroir. Tu te trouves comment ? Moi, il m'a parlé ce texte. Et je me suis dit, mais oui, moi je suis comme ça. Je suis de bonne volonté. Je suis engagée dans le service pour Dieu. Mais c'est ce qui est bien, hein ? Donc merci pour tous les bénévoles, les engagés. C'est vraiment top. Ce qu'on est en train de vivre en tant qu'Église Passion, c'est vraiment historique et c'est beau. On met la main à la pâte. Mais derrière, j'entendais le Saint-Esprit qui me disait, n'oublie pas, viens et goûte combien je suis bon. Viens et goûte combien je suis bon. Tout est là, tout est dans la présence de Dieu, dans la présence du Père. Et par rapport à ce que je te partage maintenant, peut-être tu te dis, mais moi je me vois plus comme le fils aîné, qui n'arrive pas à juste profiter de la présence de Dieu, qui est peut-être dans l'action, qui est dans la routine, où je sens que mon âme s'est endormie même. Ou peut-être tu dis, mais je suis un peu comme ce fils, le dernier fils qui est parti de la maison et Dieu, ça fait longtemps que je n'ai pas connecté avec lui. Et je crois que Dieu désire ce matin libérer ton âme afin que tu puisses le dire. Oui, je veux plus de toi. Oui, je veux revenir à la maison. Oui, je veux retrouver ton cœur. Et je n'arrive pas à continuer ce que je vais dire, ce que j'ai prévu de dire, sans prendre maintenant juste un petit moment pour qu'on puisse chacun fermer les yeux. Je sentais que le Saint-Esprit me disait, mais là maintenant c'est important. Et je vais prier courtement. Seigneur, on prend conscience qu'il y a plus en toi. Et pourtant nos âmes sont endormies peut-être. Peut-être qu'on s'est éloigné ces derniers mois de toi ou ces dernières semaines, ces vacances. Peut-être qu'on se retrouve dans cette satisfaction du Fils aussi, où on vit notre bonhomme de chemin. Seigneur, on veut se détacher de cette satisfaction qui a endormi notre âme. Et on veut te dire qu'on veut plus. On veut exprimer notre soif. On veut plus. Viens bouleverser nos vies. Viens toucher nos vies. Et je te prie que toutes les ornières qui ferment notre horizon spirituel, toutes les déceptions, toutes les choses qui ont été négatives, qui ont fait qu'on s'est dit, mais Dieu, on dit qu'il est grand, mais je ne le vois pas. Toutes ces choses tombent maintenant au nom de Jésus. Je veux voir ce plus. Je veux voir cette ouverture. Imaginez plus grand que ce que j'imagine maintenant. Merci Saint-Esprit d'agir maintenant dans nos cœurs, dans nos même dans nos raisonnements. Amen. Et je crois que Dieu nous demande de nous préparer à vivre infiniment plus que ce qu'on peut demander et imaginer. Et j'aime ce texte d'Éphésiens 3, 20 qui dit « Il agit par sa puissance bien au-delà de ce qu'on peut imaginer. » Dieu nous veut du bien. Et si nous voulons vivre plus de lui, plus par lui, plus pour lui, il y a un moment donné où il faut qu'on perde pied. Il faut qu'on lui laisse le contrôle de nos vies. Lui, il sait très bien faire les choses, bien mieux que nous. Et j'avais ce verset qui m'est venu dans Matthieu 9, 17. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'histoire d'outres. Il compare les outres nouvelles et les outres vieilles. Les outres, c'est un peu comme une gourde, j'explique juste pour ceux qui ne savent pas. C'est une gourde en peau, en cuir. Et il explique, on ne met pas non plus du vin nouveau, et le vin nouveau, c'est un vin pétillant, un peu comme le champagne, dans des vieilles outres. Sinon, les outres éclatent et le vin coule. Et je voyais dans ces outres vieilles comme de la rigidité. De la rigidité, peut-être même du contrôle, même notre manière de fonctionner tellement calculé, tellement petit, réservé. Et là, Dieu nous encourage à devenir ces autres nouvelles, avec de la peau nouvelle, pour contenir plus de lui. Moi, je suis frustrée de me dire, je veux plus, Seigneur. Et qu'en fait, moi, mon outre, qui je suis rigide et j'arrive pas à contenir plus. Vous voyez le combat qu'il y a dans nos vies, des fois. On dit, on en a besoin de plus, mais en fait, on n'arrive pas à lui laisser la place pour plus. On n'est pas souple. Et qu'on puisse vraiment continuellement dire à Dieu, oui, je veux que tu renouvelles ma vie pour que je contienne plus.
Peut-être l'équipe louange peut venir, on va tout bientôt finir. Juste vraiment comme clore ce moment, parce que je crois vraiment que c'est une pensée que Dieu veut nous donner. En ce début d'année, vraiment de mettre en nous ce désir de plus. Pour le jeune fils qui est revenu, qui était parti de la maison, ils ont fait la fête, c'était comme un cadeau qui est venu tomber tout seul du ciel. Le père a tué le veau gras, ils ont fait la fête. Et des fois, il y a des bénédictions qui nous tombent dessus comme ça, c'est une faveur de Dieu. Souvent même quand on se convertit, il nous libère de plein de choses, de dépendance. C'est comme si tout va tout seul. Et on voit aussi que le fils aîné plus tard, le père lui dit, mais il y a plein de chevreaux ici, tu peux juste aller en chercher. Et des fois, il y a des choses qu'il faut aller saisir. Et Dieu voudrait nous dire, il y a tout dans la maison. Alors des fois, je te fais des grâces qui tombent du ciel toutes seules. Puis des fois, j'aimerais que tu ailles toi juste saisir. C'est pas très loin, c'est dans la maison, c'est par là. Mais Dieu veut nous donner cette faim et cette soif. Et je crois que le message qu'il y a ce matin, qu'on aimerait dire, c'est pas... En début d'année, il faut faire des bonnes résolutions, il faut faire plus ceci. Mais c'est il y a plus. Et quand on se rend compte qu'il y a plus pour notre vie, qu'il y a plus pour l'Église, qu'il y a plus pour cette région, pour notre famille, ça va faire monter en nous aussi le désir de s'impliquer pour ce plus. À un moment donné, il faut réaliser qu'il y a ce plus et on va aussi saisir ces choses. Et c'est vraiment ce qu'on avait simplement à cœur de vous partager ce matin. J'aimerais simplement prier dans ce sens pour que Dieu puisse réveiller en nous ce désir vraiment de plus. Bien Seigneur, je te prie ce matin que tu puisses vraiment nous donner cette faim et cette soif de te voir à l'œuvre. Seigneur, on voit que tu agis en fonction d'une attente. Tu as envoyé ton esprit sur les 120 parce qu'ils s'attendaient à toi. Et Seigneur, moi, quand je lis la Bible, je me dis qu'il y a des choses que je lis que je ne vis pas encore. Et j'aimerais vivre ces choses. J'aimerais voir les gens être touchés par ta grâce. J'aimerais voir les gens être guéris. J'aimerais voir les gens qui sont désespérés trouver un avenir, une lumière. C'est-à-dire, mais Dieu est vivant aujourd'hui, c'est vrai. Et Seigneur, moi, j'ai soif de ces choses. Et j'aimerais, Seigneur, avoir une soif encore plus grande. J'aimerais, comme on l'a vu, Seigneur, comme souffrir intérieurement, languir de soif pour ça. Et j'ai tellement soif que je vais penser à ça. C'est comme quand on a soif, on pense qu'à ça. Et finalement, je vais me mettre en œuvre pour ça. Et je te prie, Seigneur, donne-nous soif. Donne-nous soif, Seigneur, de toi. Donne-nous soif de voir ton royaume se manifester. Donne-nous soif de plus de ta présence. Seigneur, on veut être reconnaissant. On ne veut pas être satisfait juste en rester là. Et je te prie que tu nous titilles, que tu nous piques un peu par ton esprit ce matin pour qu'on aille plus loin. Alléluia. Qui c'est qui a envie de dire Amen à ce message?
Amen.
Amen. Amen. Amen.